franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, vous avez bien raison, il est 19h. Le journal vous est présenté par Yves Decamp. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Les surveillants pénitentiaires plus mobilisés que jamais après le rejet du projet d'accord par les syndicats. De nombreux établissements pourraient être bloqués demain, comme à Borgo et Gradignan ce dimanche. L'armée turque poursuit son offensive contre les Kurdes en Syrie. Le président Erdogan, qui veut s'assurer une zone de sécurité, assure que tout ira très vite. Une réunion du Conseil de sécurité se tiendra demain à la demande de la France. On prend les mêmes et on recommence en Allemagne. Les sociaux-démocrates approuvent le projet de grande coalition avec Angela Merkel. Mais rien n'est encore joué pour le gouvernement. Dans ce journal également, le bilan qui s'alourdit après l'attaque de l'hôtel intercontinental de Kaboul. On parle ce soir d'au moins 30 morts. La mort d'Alain de Vaquet, dont le nom reste associé aux manifestations lycéennes de 1986. Un styliste star pour la maison Céline, dont Edith Slimane prend la direction artistique. En sport, le sacré week-end des clubs français en Coupe d'Europe de rugby. La Rochelle et le Racing ont rejoint Clermont et Toulon en quart de finale. Sacré suspense en Ligue 1 de football pour la deuxième place. Monaco, vainqueur de Metz, colle à Marseille. En attendant, Lyon, qui reçoit ce soir le Paris Saint-Germain sans Neymar. Et puis sacré challenge pour Caroline Garcia ce soir pour la première fois en huitième de finale à l'Open d'Australie face à l'américaine Madison Keys. Le journal des sports dans un instant avec Jérôme Val. Après la météo, deux saisons, de la pluie pour tout le monde ou presque. Il fera beau dans le sud-est seulement. 15 départements en vigilance orange, inondations dans les vallées alpines et le sud-ouest. Pour commencer, c'est la pilule qui a du mal à passer. Ce dimanche, la décision du Premier ministre de renoncer à l'exposition universelle de 2025 a été très mal accueillie, c'est un euphémisme, par les promoteurs du projet. Élus parisiens et franciliens pour la plupart, pris par surprise, et qui dénoncent une décision précipitée. C'est par un courrier adressé au comité d'organisation, révélé par le journal du dimanche, qu'Édouard Philippe leur a expliqué ses raisons, exclusivement financières, en jugeant le modèle économique du projet insuffisamment maîtrisé et en refusant de gréver l'avenir. Pour le président du conseil départemental de l'Essonne, dont le département était particulièrement impliqué autour du plateau de Saclay, c'est un camouflet pour les banlieues, il l'a dit à Béatrice Duquet.
Ce que je retiens surtout, c'est que le président de la République fait le tour de la planète en disant que la France est de retour, mais qu'elle est de retour partout sauf chez elle. Et qu'il y a une forme de mépris à l'égard de la banlieue qui n'aurait pas le droit de porter un certain nombre de projets. Je pense que si cette exposition universelle s'était tenue à Paris, le dossier aurait été traité différemment.
L'organisation de la Coupe du Monde, des JO et un événement de plus, ça faisait trop.
Ce qui est clair, c'est que l'État s'est engagé sur les JO de manière sans doute imprudente. Mais c'est une belle manifestation dont nous souhaitons la réussite. Je ne vois pas en revanche au nom de quoi tous les territoires n'aurait pas le droit aussi de porter des projets avec de belles valeurs. Il faut bien se rendre compte que le Saclay, c'est la Silicon Valley à la française. C'est le regroupement de tous les chercheurs, de tous les étudiants nécessaires à l'avancée du pays. Et on est en train de couper les pattes à un projet formidable pour non seulement pour mon territoire, mais pour la France et pour le reste du monde.
Le président du comité de candidature, Jean-Christophe Fromentin, dénonce une France qui renonce et recule. Pour Manuel Valls, qui était à midi sur France Inter, la décision est mauvaise sur le fond et dans la méthode. Pour le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, en revanche, on ne peut pas multiplier les grands événements en rappelant que la France accueillera la Coupe du Monde de rugby en 2023 et donc les JO en 2024. Dans les prisons, la mobilisation s'est poursuivie ce dimanche et devrait reprendre de plus belle demain matin. Après le rejet par les syndicats du projet d'accord proposé par l'administration, les surveillants pénitentiaires sont appelés à déposer les clés, comme on dit, à ne pas prendre leur service, autrement dit, ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait plutôt à Borgo, en Corse, comme hier, ou à Bordeaux-Gradignan, aujourd'hui, où la maison d'arrêt est totalement bloquée depuis 6h ce matin. Pour les gardiens mobilisés depuis une semaine maintenant, la promesse par la garde des Sceaux de créer 1100 emplois dans les 4 ans est illusoire, impossible à concrétiser sans une augmentation des salaires, explique à Olivia Chandiou le responsable force ouvrière de Gradignan, Hubert Gratreau.
Un surveillant qui a quelques années de boutique, il est, quand on enlève la prime, il est à 1400 euros par mois. Donc de nos jours, sincèrement, je ne vois pas comment on peut recruter des agents sans une revalorisation des salaires. Tout simplement parce que les salaires ne sont pas en adéquation avec nos missions, qui sont quand même des missions à risque. Tous les jours, on peut être confronté à des agressions ou à des coups de couteau comme les collègues en Corse. Donc c'est un tout. À un moment donné, il faut que le gouvernement prenne en compte la difficulté de notre métier et à ce moment-là fasse évoluer nos salaires à travers les points d'indice, à travers des indemnités supplémentaires.
Voilà, les blocages pourraient donc se multiplier demain matin comme à Borgo en Corse où les gardiens sont toujours sous le choc. Deux jours après l'agression de deux de leurs collègues par un détenu radicalisé, lequel a été mis en examen ce dimanche pour tentative d'assassinat. Il a été transféré sur le continent. L'armée turque en Syrie, dans le nord du pays, le président Erdogan poursuit l'offensive lancée depuis hier contre les Kurdes qui contrôlent cette région d'Afrin. Une milice kurde qualifiée d'organisation terroriste par Ankara qui voudrait s'assurer d'une zone de sécurité d'au moins 30 kilomètres. Christian Chesneau, le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra demain des consultations à la demande de la France.
Oui, l'opération baptisée Rameau d'Olivier s'est intensifiée toute la journée. L'armée turque a multiplié les bombardements tandis que des combats se déroulé au sol. La Turquie a mobilisé à ses côtés 25 000 rebelles syriens. Selon l'état-major d'Ankara, 45 cibles auraient été détruites, dont des abris et des caches d'armes. Les Kurdes affirment de leur côté avoir repoussé une incursion des soldats turcs dans Afrin. Pour la France, cette opération de la Turquie nuit aux opérations de la coalition internationale contre Daesh. C'est contre-productif, estime Florence Parly, la ministre des Armées.
Notre priorité, ce n'est pas nouveau, c'est la lutte contre le terrorisme. Par conséquent, tout ce qui peut détourner les combattants de cette lutte est une mauvaise chose. Ce combat-là, il pourrait détourner les forces combattantes kurdes qui sont aux côtés et très engagées au sein de la coalition à laquelle la France appartient, de ce combat primordial. Et donc je crois qu'il faut que nous revenions à l'essentiel. L'essentiel, c'est la lutte contre le terrorisme. Et tous ces combats, notamment ceux qui ont lieu en ce moment de façon terrible en Syrie, dans la poche d'Idlib ou ailleurs, sont des combats qui doivent être arrêtés.
La Russie et les États-Unis ont appelé la Turquie à faire preuve de retenue, car selon eux, cette offensive ne va pas dans le sens de la stabilité et risque de compliquer encore un peu plus la situation dans le nord de la Syrie.
8 civils auraient été tués par des frappes de l'aviation turque. À l'inverse, une personne serait morte en Turquie dans des tirs de roquettes venus de Syrie. À Kaboul, peut-être plus de 30 morts dans l'attaque de l'hôtel intercontinental la nuit dernière. Un bilan beaucoup plus lourd qu'annoncé et peut-être pas définitif. Le commando armé qui a fait irruption dans l'hôtel hier soir a résisté toute la nuit aux forces de sécurité. Une attaque revendiquée par les talibans. À Kaboul, Sonia Ghezali.
Des victimes asphyxiées, des victimes ayant succombé à leurs blessures. C'est ce qu'ont découvert tout au long de la journée les forces de sécurité afghanes appuyées par la coalition internationale sous la bannière de l'OTAN qui ont parcouru toutes les pièces des 6 étages de l'hôtel intercontinental une fois les 6 insurgés abattus. L'attaque, qui a duré plus d'une dizaine d'heures, a été particulièrement violente. Une explosion suivie d'un incendie et d'échanges de tirs interrompus par des explosions ponctuelles. Les insurgés étaient lourdement armés et ont défié la police et les forces spéciales afghanes durant plus de 13 heures. Parmi les victimes, il y a des Afghans et plusieurs étrangers, dont un de nationalité ukrainienne. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues. C'est le cas notamment de 16 membres d'équipage d'une compagnie aérienne afghane qui séjournait dans l'établissement. Les clients étaient nombreux hier soir. Un mariage a été célébré. Les participants d'une conférence s'y trouvaient également. Tous ces facteurs expliquent le bilan lourd de cet attentat revendiqué par les talibans qui, sur Internet, disent, je cite, que l'hôtel était plein d'envahisseurs américains et d'autres nationalités. Kaboul, Sonia Ghezali, RFI pour France Inter.
Et ce soir, le président afghan Ashraf Ghani accuse des pays voisins d'aider les terroristes, faisant allusion bien sûr au Pakistan. En Allemagne, le SPD d'accord pour la grande coalition. Les sociodémocrates réunis en congrès à Bonn ont approuvé l'ouverture de négociations avec Angela Merkel pour la constitution d'un nouveau gouvernement, ce qu'ils avaient refusé au lendemain des élections. Pour autant, Cyril Sauvageau, vous êtes à Berlin, rien n'est encore acquis. Le SPD a trouvé lui aussi ses frondeurs.
Oui, Martin Schulz, le chef du SPD, a senti le vent du boulet. Courte victoire du oui, hein, 56% seulement des délégués en faveur des négociations. Un résultat d'autant plus remarquable que tous les ténors du parti s'étaient engagés pour le oui. Mais la révolte gronde chez les militants, très réticents à l'idée de gouverner 4 ans de plus dans l'ombre d'Angela Merkel. Une révolte orchestrée par les jeunes sociaux-démocrates. Leur chef de file, Kevin Kühnert, 28 ans, a fait forte impression cet après-midi au congrès à Bonn avec un discours discours très offensif et beaucoup plus applaudi que celui de Martin Schulz. Un choc des générations, symbole d'un parti profondément divisé. Un parti qui ira avec des semelles de plomb négocier cette nouvelle coalition. Les discussions avec la CDU-CSU commenceront dès demain à Berlin, mais les frondeurs ne désarment pas. Il leur reste encore une chance de faire barrage. Martin Schulz a promis de consulter une dernière fois ses troupes. D'ici quelques semaines, il soumettra le contrat de coalition au vote des militants par référendum. Vu le résultat d'aujourd'hui, ça s'annonce très serré. Attention donc, Angela Merkel n'est pas tout à fait tirée d'affaire.
Cyril Sauvageau à Berlin. Il était le père d'une réforme qui n'a jamais vu le jour. Alain de Vacquet, ministre de l'enseignement supérieur en 1986, est mort avant-hier. Il avait 75 ans, ministre pendant un peu plus de 6 mois seulement. Son nom reste associé à la mobilisation lycéenne et étudiante de l'automne 86 contre son projet de réforme des universités. Partout en France, des centaines de milliers de jeunes étaient descendus dans les rues en se trouvant un nouveau cri de ralliement. Pendant plusieurs semaines, le gouvernement de Jacques Chirac essaiera de déminer la situation. Alain de Vacquet faisant lui-même son mea culpa sur la forme.
Ces manifestations étudiantes que je puis comprendre me semblent plus résulter peut-être d'une mauvaise information sur la loi qui peut m'être imputable, je le reconnais tout à fait, que d'un combat sur des problèmes de fond. Je penserais que je me suis mal expliqué. Et c'est peut-être le défaut d'un jeune ministre qui fait pour la première fois une loi. J'ai passé beaucoup de temps sur cette loi, j'ai vu beaucoup de monde, mais peut-être n'ai-je pas fait, ou ai-je fait trop tardivement la présentation.
Voilà, rien n'y fera, d'autant que le 5 décembre 86, en marge d'une nouvelle manifestation, un étudiant, Malik Oussekine, était matraqué à mort par des policiers. Aussitôt, le ministre présentait sa démission à Jacques Chirac, qui retirera son projet de loi au mois de mars suivant. « Je ne suis pas parti à cause de ce décès », dira plus tard Alain de Vacquet, « mais les violences m'ont semblé tout à fait irréconciliables avec l'idée que je me faisais de ma mission. » Ce soir, son lointain successeur, Jean-Michel Blanquer, salue la mémoire d'un honnête homme qui était à la recherche de l'intérêt général. Il est le plus mystérieux des stylistes stars. Eddy Slimane, qui s'était éloigné des podiums depuis près de 2 ans après avoir quitté Saint-Laurent, fait son grand retour dans la mode chez Céline, dont il prend la direction artistique. Le créateur de 49 ans, qui succède donc au Britannique Phoebe Philo, présentera son premier défilé lors de la Fashion Week le septembre prochain. Pour la journaliste Sophie Fontanelle, écrivain spécialiste de la mode, la nomination d'Eddy Slimane chez Céline, c'était une évidence. Elle l'a dit à Anne-Laure Bouzige.
Oui, ça m'a semblé être une évidence, mais à l'instant où je dis ça, je réalise que cette évidence-là, personne ne l'avait devinée, donc c'est une drôle d'évidence. Disons que ça paraissait improbable, même si c'est sûr que c'est une excellente idée, ça paraissait improbable que Eddy Slimane, qui quand même aujourd'hui une des personnes qui compte le plus dans la mode, aille dans une maison comme Céline, qui n'est pas la plus grande des maisons, même si elle est devenue absolument géniale avec Phoebe Philo qui l'a dirigé pendant des années.
Alors pourquoi il a accepté ?
C'est un endroit où on peut faire un peu ce qu'on veut, voyez, on n'est pas entièrement l'esclave, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement libre. Donc lui, en fait, il se retrouve avec juste la maison Céline et il va pouvoir faire dedans ce qu'il veut. Et il a énormément de talent.
Voilà, Eddy Slimane qui avait déjà travaillé pour le groupe LVMH en tant que directeur de la création chez Dior. C'était au début des années 2000. Encore un peu plus de 2000 foyers privés d'électricité dans le Var après les violents coups de vent de la nuit dernière, mais tout devrait être rétabli dans la soirée. Ce soir, ce sont plutôt les inondations qui menacent dans les vallées alpines notamment et le Grand Sud-Ouest, en Dordogne par exemple, où des records de pluie ont été battus par endroits. La Vézère est en crue, c'est la deuxième depuis le début du mois. À Terrasson-la-Ville-Dieu, 6000 habitants. On a beau avoir l'habitude, c'est toujours angoissant, Manon de Verdet.
Les crues de la Vézère, les habitants de Terrasson vivent avec depuis toujours. Régulièrement, l'eau s'invite dans les rues, sur les places et même parfois dans les maisons. Alors les terrassonnais sont devenus un peu fatalistes.
Bon, on ne peut pas faire grand-chose. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça fait 3 ans que j'habite ici. C'est déjà la 4e ou 5e fois. Donc, j'ai l'habitude.
Mais cette année, il y a quand même beaucoup d'eau. Alors, même si elle est habituée, cette autre habitante de Terrasson veille au grain.
Ouais, c'est quand même impressionnant de voir ça. J'ai pas envie de me retrouver les pieds dans l'eau en pleine nuit. Faut dégager la maison, quoi. Qu'il faut surveiller, quoi.
L'eau est tout de même montée à 3,16 m. Alors comme à chaque crue, un dispositif particulier est mis en place par la mairie. Frédéric Gauthier est adjoint au maire.
On met en place une cellule de crise. Donc il y a deux élus plus deux techniciens de la mairie qui sont là en permanence, jour et nuit. Et on a des listes de personnes que nous prévenons en fonction de la montée des eaux. Il y a des petits coups de sirène en fonction de la montée de l'eau à un certain niveau. La Vézère est un cours d'eau un peu capricieux. Bon, il n'y a pas d'inquiétude. On a vu largement pire dans les années 80 et bien au-delà.
Pour le moment, il n'y a pas de gros dégâts à Terrasson, mais les habitants suivent l'évolution de la situation minute après minute.
15 départements sont ce soir en alerte pluie inondation. On y revient dans un instant après la route.
Point route avec Sarenza. Découvrez des chaussures stylées pour tous les goûts en prenant la direction sarenza.com.
Sarenza.com.
Un mauvais temps qui ne facilite pas les choses. Élise Thibault, c'est difficile en région parisienne.
Et oui, des routes glissantes ce soir et plusieurs accidents, notamment en ce moment sur l'A15 à Gennevilliers. En quittant Paris, il y a un accident grave. La circulation est saturée dans Gennevilliers, mais aussi sur l'A86 extérieure. Ça coince aussi au sud de Paris avec un accident sur l'A10 en montant vers la capitale. Juste après le péage de Saint-Arnoult, quelques difficultés aussi pour rejoindre Lyon, notamment sur l'autoroute A43. Elle est très fortement ralentie en ce moment depuis Bourgoin-Jallieu jusqu'à Lyon.
Élise Thibault, au PC Mobilité de Radio France.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
De la pluie encore et toujours pour presque tout le monde, Jean-Michel Golinski.
Les perturbations se succèdent quasiment sans interruption, avec demain l'entrée en scène d'une nouvelle onde pluvieuse et venteuse qui va traverser le pays dans toute sa largeur, en épargnant que les régions du quart sud-est, du golfe du Lion, la Provence et la Corse, où le soleil va s'imposer largement grâce au Mistral et à la Tramontane à près de 100 km à l'heure. Ailleurs, la dépression qui va traverser le pays va s'accompagner de rafales de 60 à 80 km à l'heure, de pluie soutenue en particulier sur les pays normands, mais beaucoup plus marquée vers le Massif central et de Rhône-Alpes au quart nord-est, avec de la neige à partir de 1800 mètres sur les Alpes du Nord. Conséquence, l'Isère, les Savoies, l'Ain, le Jura et le Doubs sont maintenus en vigilance forte pluie inondation, doublée d'une vigilance orange pour un fort risque d'avalanche sur les Savoies et l'Isère. Le tout dans des températures très douces l'après-midi avec une moyenne de 12 au nord, 15 au sud.
France Inter, 19h17, on passe au sport. Avec vous, Jérôme Val, bonsoir.
Bonsoir Yves.
La 22e journée de Ligue 1 se conclura en apothéose tout à l'heure avec le choc Lyon-PSG.
Et oui, comme une éclaircie dans un week-end pluvieux, une affiche avec le leader indéboulonnable du championnat qui rend visite à l'OL, l'une des équipes les plus ambitieuses derrière le PSG et qui compte bien reprendre sa deuxième place ce soir. Christophe Vincent, Sébastien Hazard, vous êtes à Lyon. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Christophe, d'abord, avec vous, un petit coup d'œil au classement. Et l'on voit tout de suite qu'après la victoire de Monaco à l'instant contre Metz, eh bien Lyon est pour l'instant éjecté du podium. L'OL n'a donc pas trop de temps à perdre pour revenir à cette deuxième place.
Oui, la deuxième place, c'est plus que jamais l'objectif des Lyonnais. Ils pensent que la première est inaccessible et promise à Paris. Il faut être lucide et réaliste, dit l'entraîneur Bruno Genesio. Mais la deuxième place, c'est bien aussi, ajoute le capitaine Nabil Fekir. Dans l'immédiat, Genesio n'y accorde pas grande importance. Il préfère se concentrer sur le jeu. Pour repasser ce soir devant Marseille et Monaco, les Lyonnais doivent uniquement battre les Parisiens, comme ici même il y a deux ans, et ils y croient. Sur un match, Paris est prenable, affirme Genesio, si les moyens et si l'OL en même temps est en grande forme sur toute la durée du match, comme mercredi à Guingamp. Cette saison, les Lyonnais sont présents lors des grands rendez-vous. Ici, ils ont battu Monaco et Marseille. Ils n'ont aucun blessé et ils peuvent compter sur Nabil Fekir, leur capitaine, très inspiré et décisif, déjà 15 buts marqués. Les supporters aussi promettent une grosse ambiance au coup d'envoi. Juste après l'hommage qu'ils rendront à Paul Bocuse, décédé hier, ils applaudiront le Lyonnais le plus célèbre au monde.
Alors en attendant de cuisiner le Paris Saint-Germain, justement avec vous Sébastien Hazard, on s'intéresse à ce PSG façon bulldozer mercredi face à Dijon, succès 8-0 avec un Neymar étincelant. Le Brésilien absent ce soir pour une blessure à la cuisse. J'ai envie de vous dire Sébastien, encore absent parce que ça devient récurrent.
Oui, ce sera le septième match sans Neymar pour le PSG depuis l'arrivée de la star brésilienne. Ce n'est absolument pas anodin. Quand vous regardez le Paris Saint-Germain a disputé une trentaine de rencontres, vous voyez, cette absence, ça fait quasiment un match sur quatre, un petit peu moins. Donc oui, effectivement, Neymar est souvent absent. Jusque-là, si on regarde les résultats, on ne va pas dire que le PSG présente le même visage avec ou sans lui, évidemment, mais d'un point de vue comptable, à part à Montpellier, en début de saison, au mois de septembre, où le Paris Saint-Germain s'était contenté d'un nul sans lui, sans Neymar, le Paris Saint-Germain arrive à gagner. Sans Neymar, le PSG s'est toujours imposé également, à part à Montpellier, évidemment.
Et en quelques mots, Sébastien, le PSG a sans doute un peu la tête tournée vers le Real Madrid et ce huitième de finale en Ligue des Champions, mais d'ici là, il y a quand même encore six matchs à jouer en championnat et Coupe de France, dont celui de ce soir.
Donc celui de ce soir, cette confrontation face à Lyon, c'est vrai, ressemble à l'opposition la plus consistante pour Paris avant le huitième de finale de Ligue des Champions, vous le disiez. Mais ce huitième de finale, c'est dans trois semaines et demie. Et quelle sera la physionomie de l'équipe parisienne dans trois semaines et demie? Impossible de le dire. On regarde ce soir, Neymar, Thiago Motta seront absents. Quels seront les joueurs présents, valides dans trois semaines et demie? Impossible de le dire, évidemment. Mais c'est un test pour Paris quand même.
Oui, merci beaucoup, messieurs. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Et sur l'histoire récente des chocs entre Lyon et le PSG, bien c'est plutôt équilibré. Deux victoires lyonnaises, deux succès parisiens et un match nul.
Et puis Jérôme, il y avait deux autres matchs cet après-midi. Match important pour le haut et le bas du tableau.
Monaco a donc dominé Metz 3-1 et revient à la troisième place. Et puis Nice enfonce un peu plus Saint-Etienne. Une victoire 1-0 grâce à un but de Willian Cyprien. Nice revient à la hauteur de Nantes à la cinquième place. Les Verts, eux, restent 16e avec une petite longueur d'avance seulement sur le barragiste. Le capitaine Loïc Perrin, pas encore totalement inquiet.
Bah, qu'on est en danger et qu'il va vite falloir prendre des points. Il faut avoir conscience de la situation. C'est un classement qui est très très serré. C'est pas le plus facile de prendre des points à Nice. Ça a été cohérent ce soir. On avait mis un plan de jeu en place qu'on a bien respecté. Il manquait un petit quelque chose pour égaliser. Continuer comme ça, si on joue de cette façon, on va gagner les matchs. Il va vite falloir prendre des points chez nous, à domicile contre Caen la semaine prochaine déjà.
Et le classement, en attendant évidemment le dernier rendez-vous de la soirée, derrière le PSG, Marseille, Monaco et Lyon, en queue de peloton barragiste, Lille, Toulouse et Metz sont relégables. On évoquait le Real il y a quelques minutes, l'équipe de Zinedine Zidane a mis le feu cet après-midi face au Deportivo La Corogne, victoire 7-1, avec notamment un doublé de Gareth Bale et un de Cristiano Ronaldo. Le Barça joue ce soir au Betis Séville. En Italie, Naples conserve la tête au classement après un court succès 1-0 à Bergame. Et puis le leader en Allemagne, le Bayern Munich, s'impose 4-2 face au Werder Bremen.
Et puis Jérôme, la disparition de l'ancien international nantais, Philippe Gondet, ça ne vous dira rien, vous êtes trop jeune, meilleur buteur de l'histoire des Canaries. Il était dans l'équipe de France de la Coupe du Monde en 66, il avait 75 ans. Deux clubs français supplémentaires en quart de finale de la Coupe d'Europe de rugby.
Le Racing 92 et La Rochelle rejoignent Clermont et Toulon. Le Racing 92 vainqueur sur le fil, sur la pelouse enneigée de Leicester 23-20. Et La Rochelle arrache son ticket grâce à un succès 16-7 contre les Harlequins, succès historique pour le club Damien Cozzuzo.
Oui, La Rochelle verra bien le printemps européen grâce à sa victoire 16-7 face aux Anglais des Harlequins, avec notamment deux essais inscrits par Aguillon et Murimurivalu. Une qualification à la première place du groupe parce que dans le même temps, l'Ulster s'est incliné aux London Wasps. Tout cela alors que c'est la première participation des Rochelais à cette Champions Cup. Les joueurs de Patrice Collazo qui se sont vraiment révélés à toute l'Europe du rugby en remportant notamment leurs trois premiers matchs de poule avec bonus offensif. La Rochelle devra se déplacer pour ce quart de finale fin mars et d'ici là maintenir cette bonne dynamique en top 14 où les Rochelais occupent pour le moment la deuxième place. À La Rochelle, Damien Gozioso pour France Inter.
Castres en revanche a lourdement chuté au Munster 41-3. Alors sur les 8 équipes rescapées pour ces quarts de finale, et bien la moitié est française, c'est pas si mal. Le tableau de ces quarts de finale qui se joueront fin mars avec un choc franco-français, Clermont contre le Racing 92, Toulon ira au Munster, La Rochelle se rendra à Clanéclie au Pays de Galles, puis le dernier match c'est le Lions contre les Saracens, double tenant du titre. En biathlon, bien c'est un coup pour toi, un coup pour moi entre Martin Fourcade et le Norvégien Johannes Bø. Fourcade deux fois deuxième en sprint et lors de la poursuite dernière Bø, bien il s'est repris cet après-midi en remportant la Mastart d'Anterselva en Italie, le dernier rendez-vous avant les Jeux d'hiver dans trois semaines. Au passage, c'est la 69e victoire en Coupe du Monde pour Martin Fourcade.
En tennis à Melbourne, Caroline Garcia veut démarrer la semaine en trombe.
La Française, seule rescapée tricolore dans cet Open d'Australie. Caroline Garcia affronte la nuit prochaine l'Américaine Madison Keys, 20e joueuse mondiale et finaliste du dernier US Open. C'est la première fois que Garcia dispute un huitième de finale à Melbourne et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
Je suis vraiment concentrée sur chaque match et j'essaye pas trop de me projeter ou de penser à la suite du tournoi. Et voilà, c'est vrai que c'est important d'enchaîner les matchs, d'enchaîner les victoires. Et si t'es en deuxième semaine, ça veut dire que t'as passé trois bons matchs. Je suis vraiment concentrée sur moi, mon tournoi. Voilà, c'est bien d'être en deuxième semaine, mais c'est pas fini.
Et ce match entre Garcia et Kay, ça sera vers 1h du matin, hein, si vous voulez le suivre, Yves, cette nuit. Dans la nuit, dans la foulée, on suivra aussi Roger Federer face au Hongrois Fuksovics et Novak Djokovic contre le Sud-Coréen Chung. Federer et Djokovic, hein, les deux derniers vainqueurs de l'Open d'Australie. Le constat, c'est donc qu'il n'y a plus de Français dans le tableau masculin. Mais ce n'est pas une fatalité pour Julien Bento, qui lui a fait un bon parcours cette semaine à Melbourne.
Il faudrait que voilà 3, 4, 5 joueurs là qui arrivent à jouer plus régulièrement des tableaux de Grand Chelem. Il faut qu'ils arrivent à se qualifier, à prendre de l'expérience sur le grand circuit, à prendre le rythme, le niveau de jeu, tout ça. Comme nous, on a la fin à un moment donné, et voilà, ça va venir, mais c'est pas parce que là, voilà, factuellement, sur cet Open d'Australie, on n'a pas de Français en huitième qu'il faut tirer la sonnette d'alarme.
Pas encore le feu au tennis français, Julien Bento, au micro de Fabrice Amgral.
Qui lui sera bien en deuxième semaine. Le Dakar, c'est fini depuis hier en Argentine, après une quinzaine riche en rebondissements.
Ouais, fini hein, les dunes, la boue, la pluie et les douleurs pour les concurrents après 9000 km de course. Cette édition 2018 se termine sur la victoire de l'Espagnol Carlos Sainz au volant d'une Peugeot. Troisième succès d'affilée pour la marque française, qui va se retirer du rallye Guillaume Batin.
Au début du programme, Peugeot avait dit une année pour apprendre et le reste pour gagner, et c'est ce qui s'est passé. Bruno Famin, le directeur de Peugeot Sport.
Bilan exceptionnel, parce que 2018, c'est une édition d'anthologie. Tout le monde dit que c'était la plus dure depuis que le Dakar est en Amérique latine, mais peut-être même bien plus dur que certains Dakar africains. Triomphé, parce que je crois que c'est le mot, vu l'écart qu'il y a à l'arrivée, et vu la domination que nous avons affichée avec la Peugeot 3008, réellement, c'est une énorme satisfaction. J'en suis très fier.
Autour du vainqueur Carlos Sainz, les autres équipages ont toujours joué collectif car c'était faire gagner Peugeot qui comptait avant le nom du vainqueur. Jean-Paul Cotteret, le copilote de Stéphane Peter Ancel.
C'est une belle réussite pour Peugeot. Sur 4 éditions, 3 victoires. On en a fait 2 sur les 4. On est déjà des privilégiés. Donc, en tout cas, on est heureux d'avoir vécu l'aventure Peugeot. Pour nous, en tant que compétiteurs, on est toujours déçus. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la victoire. Donc on est un petit peu moralement affecté, mais on est très content pour Carlos et Lucas. Ils travaillent beaucoup. Et donc, on est bien content pour eux.
Peugeot a dominé les 4 derniers Dakar. L'an prochain, sans la marque Orion, la bagarre sera certainement beaucoup plus ouverte. À Cordoba, Jérémy Tuile, Guillaume Batin, France Inter.
Et donc, cette édition 2019, sans Peugeot et sans Sébastien Loeb, qui lui a été contraint cette année à l'abandon dès la 5e étape.
On termine ce tour d'horizon de l'actualité sportive au Liberia, qui est en fête jusqu'à demain.
Et oui, ce lundi marque l'entrée en fonction du nouveau président. L'ancien footballeur Georges Weah prêtera serment demain matin dans un stade, forcément. Le Ballon d'Or 1995 a assisté ce matin à une messe en compagnie de l'ancienne présidente Helen Sirleaf Johnson, un symbole fort dans un pays divisé. Et lors de cet office, il y avait aussi Claude Leroy. C'est lui qui a découvert Weah quand il était sélectionneur du Cameroun.
Depuis hier, c'est une accumulation d'émotions. J'ai passé une partie de la soirée hier avec Georges. Nos retrouvailles, on a eu du mal à pas craquer tous les deux. Oui. Vous imaginez un petit peu, depuis ce matin, j'ai refait tout son parcours initiatique de sa maison d'enfance au terrain de foot. Et je pense qu'on ne peut pas se rendre compte, où que ce soit dans le monde, ce que ça représente. Quoi, que un petit môme, un petit gamin, le mot revient, qu'il devienne ballon d'or de football. Et puis après, qu'il devienne chef d'État.
Est-ce que là, il devient président avec la bénédiction de l'Église?
Je crois que ce matin, il a pris complètement l'habit. Cette solennité, la façon dont les choses sont passées, avec une convergence de toutes les religions. Il n'est pas ressorti, je l'ai juste vu, il m'a dit à ce soir en partant, mais je pense qu'il n'est plus du tout le même en sortant de l'église que quand il est rentré.
Claude Leroy au micro de Cécilia Arbonin. Et peut-être, hein, ouais, aura-t-il un œil ce soir sur Lyon-PSG, lui l'ancien attaquant du PSG.
Voilà, qui avait joué aussi à Monaco et au Milan AC. C'était le journal des sports de Jérôme Val.